C'est la deuxième heure de Liberté sur Parole. Dans cette deuxième heure, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Garnier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes universitaire, plus précisément enseignant en sociologie urbaine, et déjà l'auteur de plusieurs livres concernant votre sujet de prédilection. Celui dont on va parler ce matin s'appelle « Une violence éminemment contemporaine », et c'est sur la ville, la petite bourgeoisie intellectuelle et l'effacement des classes populaires. C'est paru dans la collection « Contre-feu » aux éditions Agone. Alors, tout d'abord, de quoi parle ce livre? Il parle notamment du droit à la ville. Est-ce que vous pouvez définir le droit à la ville?
C'est peut-être pas moi qui vais le définir, dans la mesure où il faut rendre à César ce qui est à César et au sociologue français Henri Lefebvre ce concept qui a été forgé par lui dans un ouvrage qui porte ce titre, Le droit à la ville, qui est sorti peu avant mai 68. Ça n'est peut-être pas un hasard. Et c'est peut-être deux choses, on peut dire. La première, c'est le droit pour toutes les classes sociales, mais en particulier les couches populaires, de pouvoir avoir accès à la centralité urbaine, c'est-à-dire au lieu d'échange, de confrontation, de diversité, d'intense activité, d'animation culturelle, droit qui devrait être accessible à tous et qui, on va y revenir, est malheureusement de moins en moins accessible aux couches les plus dominées. Mais c'est aussi le droit, selon Henri Lefebvre et puis ceux qui se sont inscrits dans sa continuité, notamment toute une école de sociologie nord-américaine, dont l'un des porte-parole, si je peux dire, est le géographe David Harvey. C'est pas seulement le droit à l'accès à la centralité urbaine, c'est aussi le droit de pouvoir agir sur la configuration de l'espace, de pouvoir intervenir dans les décisions qui modèlent la ville, pour qu'elle soit conforme, somme toute, aux aspirations, aux besoins, aux désirs des classes populaires. Évidemment, mon ouvrage, et notamment dans l'introduction, expose en quoi et pourquoi ce droit à la ville est de plus en plus interdit aux couches dites défavorisées ou modestes, puisqu'on n'ose pas parler aujourd'hui de pauvreté dans le politiquement correct de la sociologie française.
Mais vous pouvez en parler ici, ce sera déjà ça, parce que c'est quand même une réalité. Donc, les pauvres, on va parler de Paris, parce que vous parlez des villes en général, mais Paris est quand même assez emblématique de cette situation, en tout cas en France. Paris chasse ses pauvres, en fait, les remparts de cette ville sont de plus en plus éloignés. C'est ça que vous dénoncez, en l'occurrence, dans ce livre.
Je dénonce cela en partie, notamment dans l'introduction, mais ça a des conséquences sur différents aspects, si on peut dire, de la vie urbaine. Alors, je me suis intéressé à Paris, d'abord parce que j'y habite. C'est la ville que je connais le mieux.
Vous habitez dans quel quartier ?
Maintenant, dans le 13e arrondissement, à côté de la place d'Italie.
Ouais.
D'ailleurs, dans une rue qui est en voie, on va y revenir, de boboïsation. Ancien quartier populaire, près de la butte aux Cailles, et où on a mis des pavés à la place du bitume et des réverbères design qui donnent un petit air, vous voyez, traditionnel à ce quartier. Mais pour en revenir à Paris, c'est pas seulement en tant qu'habitant, c'est aussi en tant que chercheur, en tant qu'enseignant. Bon, je vous rappelle tout de suite que je n'étais pas universitaire, je l'ai été, j'ai terminé ma carrière, entre guillemets, au CNRS.
D'accord,
bon,
donc chercheur.
Ce n'est pas important. Pour en venir à Paris, le troisième point, c'est que j'ai commencé à m'intéresser professionnellement à l'urbanisme et à l'aménagement en tant que technocrate, si je peux dire. Tout au début, on venait de créer en France l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne. C'était une officine étatique dirigée par un haut fonctionnaire qui s'appelait Paul Delouvrier et qui était chargé directement par le général de Gaulle de mettre de l'ordre, pour reprendre une expression du général de Gaulle, dans le merdier qu'était l'agglomération parisienne. Et c'est là qu'on a élaboré le premier schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui a été conçu en France. J'ai travaillé pendant 3 ans dans cet organisme. C'est là que j'ai appris sur le tas ce que c'était que l'aménagement et l'urbanisme. Je sortais de Sciences Po, mais on n'y enseignait pas ces disciplines à l'époque. Et j'ai quitté très rapidement, enfin au bout de 3 ans, le dit organisme, parce que ma fonction était peut-être, en contradiction avec mes convictions politiques, était quand même située assez à gauche, pour user d'un euphémisme, et j'étais faire la même chose à La Havane, au plan directeur de La Havane. Vous voyez un peu l'anecdote, c'était un contexte complètement différent, la restructuration, le développement de la ville de La Havane au début de la révolution castriste. D'accord. Mais ce n'est qu'après que je suis rentré dans l'enseignement, l'université, etc., et que j'ai terminé donc comme chercheur au CNRS en sociologie urbaine. Alors pour revenir à ce que vous évoquez...
Attendez, moi je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on vous demandait de faire à l'époque dans ce plan de rénovation, enfin dans cet
organisme ? Le schéma directeur.
Oui,
Le schéma directeur, c'était très simple, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le Grand Paris.
Ouais.
La logique est la même. Il s'agit de remodeler, de reconfigurer, de restructurer une capitale, une ville, mais en l'occurrence la capitale, Paris, conformément aux besoins et aux desiderata des chefs d'entreprise les plus puissantes, les banques, les firmes multinationales, les grandes firmes de la distribution, pour y établir d'une part des quartiers généraux, des centres décisionnels, d'autre part pour développer des activités culturelles de haut standing, des palais des congrès, des lieux, de rassemblement pour ces couches privilégiées, et puis troisièmement un habitat dit de standing pour accueillir une population, qui correspond au-dessus du panier parmi les citadins. C'est ce qui s'est passé à Paris, où on a commencé à cette époque les opérations de rénovation, c'était le terme qu'il y avait à l'époque, de rénovation, c'est-à-dire de destruction des quartiers populaires et de leur remplacement par des quartiers soit classe moyenne, soit carrément bourgeois. Ces opérations de rénovation avaient pour effet de rejeter vers la périphérie, notamment dans les grands ensembles qu'on construisait simultanément, pour y accueillir les ouvriers et les employés. C'est un processus séculaire. Mm-hmm. On peut remonter au baron Haussmann. Oui. Les premières destructions de quartiers populaires, comme vous le savez, ont eu lieu au XIXe siècle sous Napoléon III. Et là, on a commencé, dans le centre de Paris, à virer les pauvres, on peut dire, ou les ouvriers, pour les rejeter. Alors là, d'une part, dans les quartiers du nord et du nord-est de Paris, Belleville, Ménilmontant, etc., et puis dans la proche banlieue industrielle, notamment ce qui est aujourd'hui plus ou moins la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne. Et ce processus continue aujourd'hui, mais l'échelle a changé. L'échelle, ça n'est plus Paris à l'intérieur, on dirait intramuros ou intra-périphéricum. Mmh. C'est même plus l'approche banlieue. Là où on est en train d'éjecter actuellement les populations, c'est à 10, 15, 20, 30, voire 40 kilomètres du centre de Paris. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que, ça c'est un autre sujet que j'évoque et c'est contenu dans le titre, il y a eu entre-temps l'accroissement, le développement de nouvelles couches sociales que j'appelle, on pourra y revenir, à laquelle j'appartiens, et vous aussi d'ailleurs, la petite bourgeoisie intellectuelle, lesquelles couches sociales se sont commencées à s'installer dans les anciens quartiers populaires, dans le cadre d'opérations qui n'étaient plus tellement de rénovation. La rénovation, c'est la table rase des vieux quartiers et on les remplace par des immeubles dits de standing. C'est plutôt la réhabilitation, autre concept forgé par les sociologues et les urbanistes, c'est-à-dire on garde plus ou moins le patrimoine immobilier ancien, mais on le retape, on le réaménage de l'intérieur. Et vous savez comme moi que les jeunes cadres aiment beaucoup les vieilles pierres. Donc,
oui, et puis les lofts, on adore.
Voilà. Alors on va puis parler des lofts.
C'est encore mieux si on garde le nom, genre la maison des métallos.
J'en parle, comme vous avez pu le voir, j'en parle dans un des chapitres. C'est la boboisation.
Mais voilà, c'est une manière pour les jeunes gens, jeunes gens d'ailleurs qui ne sont jamais en usine, d'y aller au moins une fois dans leur vie. Ils y habitent.
Ah ben ils y habitent. Et alors, ce qui se passe, c'est que ça a changé, je disais, d'échelle. Il y a un concept qui est à la mode en ce moment. C'est le concept, je dis à la mode dans les milieux, de la recherche urbaine, mais également de la planification, l'aménagement urbain. C'est celui de métropolisation. C'est-à-dire que on dit il faut agrandir, si on peut dire, l'échelle des villes et des pôles de développement urbain, non seulement à Paris, mais c'est valable à Lyon, c'est valable à Toulouse, c'est valable à Lille, etc., Nantes ou ailleurs, Strasbourg. C'est-à-dire que la ville traditionnelle ne suffit plus, il faut élargir comme structure d'accueil des nouvelles activités performantes, des cadres dirigeants, des gens qui sont à la tête des grandes firmes, etc. Il faut plus de place. Donc, on commence à déloger les couches populaires, y compris dans les proches banlieues, qui commencent à devenir intéressantes.
Absolument.
Aujourd'hui, vous êtes au courant comme moi, Saint-Denis, Ivry, le Montreuil, notamment le bas Montreuil, deviennent des lieux très cotés
Bagnolet, les Lilas,
de cette petite bourgeoisie intellectuelle. Alors, c'est, y a, et vous savez, elle se divise plus ou moins, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a d'un côté les ingénieurs, cadres techniciens, de l'autre côté, il y a les professions plus intellectuelles proprement dites, enseignants, chercheurs, designers, architectes, graphistes. Tous ces gens-là, naturellement, tout dépend de la place et du rang qu'ils ont dans la hiérarchie professionnelle. Il est évident que des architectes multimillionnaires connus dans le monde entier, comme Christian Porzamparc ou Jean Nouvel, ne vont pas habiter en proche banlieue. Eux, ils vont habiter en plein centre de Paris. Et puis, ils auront naturellement des pieds-à-terre dans différentes capitales mondiales, des villes globales, comme on dit aujourd'hui. Mais vous avez des architectes qui tirent le diable par la queue, des décorateurs qui tirent plus ou moins le diable par la queue, des intermittents du spectacle, etc. Ceux-là ne peuvent plus se payer le centre des villes, le centre des agglomérations. Donc ils vont aller chercher dans la proche banlieue, là où on est en train de déloger les couches populaires pour les envoyer, comme je le disais tout à l'heure, aux lisières et aux marges de l'agglomération. Et c'est ce qui explique que les banlieues rouges, une grande partie des banlieues, ce qu'on appelait les banlieues rouges, notamment aux environs de Paris, deviennent des banlieues roses, c'est-à-dire à municipalité PS, ou des banlieues vertes, le cas le plus patent étant, par exemple, Montreuil. Qui a été pendant très longtemps sous la coupe d'un maire communiste, entre guillemets, plutôt stalinien, et qui maintenant est sous la coupe de Dominique Voynet et d'un staff d'écolo, j'allais dire d'écologistes d'État, qui correspond parfaitement à la population qui...
Absolument, mais on peut généraliser au département, puisque le département a longtemps été dirigé par Hervé Bramy, et maintenant c'est Barthelonne.
J'ai connu ce département, je travaille dessus, c'est mon premier, il ne s'appelait pas la Seine-Saint-Denis.
Je le connais très bien aussi. Et en l'occurrence, on a vu non seulement un changement au niveau de l'urbanisme, mais aussi de toute la politique, notamment culturelle. On y reviendra peut-être, parce que tout ça est lié. Tout ça, vous le démontrez très bien et parfaitement lié. Mais je vous ai coupé tout à l'heure.
Enfin, je vous coupe aussi quand vous me parlez.
Mais non, j'avais une petite remarque un peu facétieuse. Dans les architectes que vous citez et dont vous vous moquez un peu, vous ne citez pas Roland Castro. Pourquoi?
D'abord parce que Roland Castro a eu le droit, si vous voulez, un habillage en règle de ma part, dans un autre ouvrage qui a fait scandale dans ma corporation, notamment de sociologue urbain ou d'urbaniste, qui s'appelait, que j'avais écrit avec un autre auteur, qui s'appelait, enfin il s'appelle toujours, il n'est pas mort, Louis Janovert, qui s'appelait La Deuxième Droite. Mm-hmm. Cet ouvrage a fait un scandale, ça nous a valu de passer d'ailleurs dans cette émission très célèbre à la télévision de Michel Pollack, Droit de réponse, où ça se terminait toujours en pugilat verbal, sinon physique. Et là, quand la Deuxième Droite, c'est sur la gauche des années 80, et il y a, et c'est consacré justement à la reconversion des anciens gauchistes et des couches radicalisées de mai 68 en nouveaux notables, en nouveaux caciques, avec leur longue marche à travers les institutions, notamment les institutions culturelles, ensuite les institutions universitaires et enfin les institutions municipales, avec l'apothéose au sommet de l'État du 10 mai 1981, où ils arrivent au pouvoir via le Parti socialiste.
Il en est question dans ce livre aussi.
Alors, dans ce bouquin, Roland Castro a droit à 3 pages. Où il est véritablement, avec élégance, bien entendu.
Mais évidemment.
Hein, on va pas se traîner dans la boue, il faut le dire. Et Roland Castro fait partie des gens que j'aime beaucoup citer, comme certains autres, qui sont pour moi emblématiques de la reconversion de ces anciens contestataires en suppôt de l'ordre établi au service de tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Et donc, je ne parle pas de Roland Castro cette fois-ci, mais parce que, bon, j'en ai parlé quand même plusieurs fois dans les articles ou dans ce bouquin notamment, et je ne veux pas en faire, têtes de Turcs favoris comme Cohn-Bendit, je pourrais en citer un philosophe de l'urbain, entre guillemets, qui s'appelle Thierry Pacaud, tout ce monde-là, ancien gauchiste, bien entendu. Et aujourd'hui, tous dans les allées du pouvoir, ils s'y sont roués très rapidement. Cohn-Bendit, quand même, il est devenu quand même un élu, un notable de la mairie de Francfort dans les années 70. Mmh. Et tous ces gens-là, évidemment, crachent maintenant sur l'idée de révolution ou de transformation radicale des rapports sociaux.
Mmh. Alors justement, la révolution, on en est loin, si on vous lit. Parce que le problème, c'est qu'on a... C'est pour ça que votre livre est salutaire. C'est que ce qui se passe, tout se passe sans qu'on en ait vraiment conscience. Tout ça est une logique parfaite. C'est-à-dire que la petite bourgeoisie intellectuelle investit les quartiers, notamment parisiens, ou la banlieue. Elle a des attentes conformes à son mode de vie, c'est-à-dire qu'il lui faut des magasins de vintage, des magasins bio, le café qui était à 1,30€ dans le petit café en face de notre radio est passé à tripler, tout simplement parce que voilà, ces gens ont les moyens de payer plus cher. Donc le fait de chasser les classes populaires se fait avec une violence très 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 insidieuse. Bon, parfois avec des histoires de vente à la découverte. coupe, ça se fait de manière très très violente et directe et crapuleuse, mais il y a aussi toute une violence insidieuse qui est presque plus efficace.
Oui, elle est beaucoup plus efficace dans la mesure où elle est un peu, non pas invisible, il suffit de voir la transformation oui. physique de ces quartiers, mais disons par exemple les expulsions, j'allais dire avec les forces de l'ordre, mm-hmm. sont relativement rares, bien entendu, on déloge de temps en temps, notamment les squats.
Hein. Oui, oui, oui.
Mais c'est un processus, aussi, hein. D'abord, on joue, il y a deux facteurs qui convergent. Il y a d'une part, au plan purement économique, pour ne pas dire financier, la spéculation foncière et immobilière, mm-hmm. avec les requins de l'immobilier. Et puis, il y a d'autre part, des politiques systématiques organisées par les municipalités. Alors avant, c'était la municipalité de droite à Paris. C'était naturellement Jacques Chirac était maire. Et il y avait l'homme des banques qui était Jacques Tiberi. Mais le relais a été pris par l'équipe de Lannoy, qui fait exactement la même politique. J'en parle longuement dans cet ouvrage, dans la deuxième partie, sur la reconquête des quartiers populaires. Il faut voir ce qui se prépare dans le nord-est de Paris. Comment on va nettoyer, entre guillemets, les quartiers du côté de la Goutte d'Or, du canal de l'Ourcq, du canal Saint-Denis, tout ce qui reste de zones, soit un peu en déshérence, soit avec un habitat extrêmement dégradé, ou pour l'instant vivent d'ailleurs dans des conditions assez infâmes des familles immigrées, etc., mm-hmm. plus sans parler des économies parallèles qu'on connaît. Tout ça va être nettoyé pour en faire... disons, des zones épurées, lisses, aseptisées.
Mais d'ailleurs, il y avait des panneaux il y a quelques années, il y a à peu près 4, 5, 6 ans, où c'était écrit « Barbès civilisé ».
Ben oui, c'est ce que j'en parle là, voilà. les fameux boulevards civilisés. Voilà. Ça, c'est une invention, pas de Delannoy lui-même, c'est surtout son conseiller, je ne me souviens plus son nom, à l'urbanisme et à l'aménagement, l'adjoint à l'urbanisme et à l'aménagement. Mais je ne sais pas si c'est de lui ou d'un autre qui est à la culture, qui est M. Christophe Girard. Qui, lui, est le grand prêtre des festivités parisiennes du genre Nuit Blanche et autres fêtes récentes qui se sont mises sur pied, lequel Christophe Girard, il n'est pas inutile de le rappeler, est aussi le conseiller en mécénat de l'homme le plus riche de France, M. Bernard Arnault, hein, LVMH et compagnie. Alors, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, l'expulsion se fait aujourd'hui, je disais, dans l'approche banlieue, avec aussi, ça s'appelle aussi rénovation urbaine.
Oui, bien
ça a été lancé du temps de Raffarin.
Oui.
Et c'est Jean-Louis Bourleau qui, temporairement, est le maître d'œuvre politique ou politicien de tout cela. Et ça consiste en fait à détruire partiellement certaines barres et certaines tours dans les ensembles, dans les grands ensembles, pour envoyer les familles et les cas les plus lourds, comme on dit, ou les familles à problème beaucoup plus loin, c'est ceux qui sont les plus oui. difficiles à gérer, comme on dit en langage technocratique, pour remplacer dans ces endroits qui sont encore proches de Paris, ces anciens immeubles et ces bars construits dans les années 60, même début des années 70, par des petits ensembles collectifs avec de l'architecture innovante, HQE, comme on dit, haute qualité environnementale, pour y accueillir les franges, j'allais dire, moyennes et inférieures de cette petite bourgeoisie intellectuelle, les franges supérieures étant, elles, au centre de Paris. Et c'est une politique, systématique, qui se poursuit. À Berlin, c'est pareil. Mmh. Le Berlin des squats, de la scène alternative, au moment de la chute du mur, est en train actuellement d'être lui aussi nettoyé. Parce que nous, on n'utilise pas ces termes. Par exemple, boulevard civilisé, il faut être en France pour écouter ça. Aux États-Unis, lorsque M. Rudolph Giuliani était maire de New York, l'ancien procureur, il a, comme il dit, nettoyé la 42e rue, une partie de Manhattan, en faisant appel aux architectes, entre autres, de la firme Disney, pour permettre, comme il disait si bien, aux familles de se promener tranquillement le dimanche.
Oui, puis il y avait une politique aussi, la fameuse théorie de la vitre brisée.
Dont je parle dans d'autres ouvrages. Effectivement, c'est la théorie du cas. Une théorie. En France, on dit théorie, mais ce n'est pas une théorie, c'est une idéologie. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on voit une maison avec des vitres qui sont cassées pendant un certain temps, ça veut dire que c'est délaissé, que c'est abandonné. Donc la pègre vient s'y établir, donc ça devient insécure. Donc il faut rénover le quartier ou le réhabiliter. Donc il faut virer les gens qui sont là, les prostituées, les dealers, les sans-papiers, les zonards, et pour y mettre, dans ces endroits requalifiés, entre guillemets, des gens de qualité.
Mais c'est marrant parce que c'est en même temps ce que vous dites, la Pègre, les Zonards, des quartiers comme l'ont été Bastille, qui était un quartier super mal famé et tout. Mais ça, ça fait des films, ça fait une culture, parce que les loulous de Bastille, ça, ça fait des bouquins, ça fait des... Alors c'est un peu de la nostalgie à deux balles, ce que je dis.
Mais oui, enfin, il a lancé un peu le mouvement.
Oui, voilà. Mais en même temps, ça faisait partie du Paris populaire et du vivre ensemble, parce que il n'y avait pas que des voyous,
il y avait un mélange.
Voilà. Et puis ça se parlait, tout ça. Enfin, il y avait un lien social.
C'est pour ça que j'évoque ce Paris, je fais un jeu de mots, le Paris perdu. Paris perdu, c'est-à-dire le Paris de jadis qui se perd. Je parie comme un vieux, vu ma génération. Mais aussi, c'était un Paris perdu, c'était un Paris au sens de jouer, qui avait été fait par un de mes anciens professeurs à Sciences Po, qui était prof au Collège de France, Louis Chevalier, qui était connu, cet historien, pour avoir écrit un ouvrage célèbre, Classe laborieuse, classe dangereuse. Et il avait écrit un livre en 1980, enfin, il avait achevé en 1965, qui s'appelait Les Parisiens. Et lorsque ce livre a été réédité 20 ans après, en 1985, en livre de poche, il m'a demandé, j'étais devenu ami avec lui, bien que nous n'étions pas sur les mêmes positions politiques, mais on avait une estime réciproque, il m'avait demandé, dites donc, ce que je dis là dans ce livre, je l'ai écrit, j'ai terminé en 65, est-ce que 20 ans après c'est encore valable? Parce qu'il était très inquiet de voir les transformations qui se faisaient sous Pompidou, hein, avec la rénovation bulldozer, avec les tours qui commençaient à s'élever du côté d'Italie, le périphérique, la voie sur berge et tout ça. Lui, pour lui, c'était des horreurs. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage après, qui s'appelait « L'assassinat de Paris », qui était une critique en règle extrêmement polémique, qui lui a valu d'ailleurs l'hostilité de toute la famille Pompidou, notamment une fois Pompidou mort. Pompidou, je le rappelle, enfin je ne le rappelle pas, mais je le signale, était un ami très proche de Louis Chevalier. Ils avaient fait ensemble Normale supérieure. Ils se voyaient encore régulièrement, même quand il était président. Toujours est-il qu'il m'a dit, est-ce que c'est encore valable ce que je dis, ce Paris populaire, ce Paris même quand il n'est pas complètement populaire, qui est marqué par cet esprit de sédition, d'anticonformisme, parce que Chevalier, dans son bouquin, remontait à François Villon et à la place de Grève avec les truands et tout ça pour terminer avec Jean Porsard, Juliette Gréco, les situationnistes, enfin, le Paris qui était toujours un Paris qui avait une personnalité, une spécificité, et dont il pensait, lui, qu'elle serait éternelle, pérenne, qu'au-delà des transformations historiques, il y aurait une permanence de l'esprit, comme il disait, parisien. Et je lui disais à Chevalier, je lui répondais, je ne crois pas, depuis que vous avez écrit cet ouvrage, donc sorti en 1965, je lui ai dit, on était en 84, je lui ai dit, 20 ans après, ça n'est plus valable. Et voici pourquoi. Alors, je lui parlais d'une part de la politique qui avait été menée de rénovation, avec les nouvelles couches sociales, avec la disparition des anciens quartiers populaires qui étaient en cours, et d'autre part, avec ce qu'on appelait à l'époque l'américanisation des modes de vie, ou la modernisation, comme on disait si bien, avec le développement de la télévision, des types de musique importés des États-Unis, hein, je parlais du rock, etc., du yéyé, tout le bazar, enfin, c'était l'époque. Et il m'a dit, bon, alors donc, j'ai dit, votre Paris, comme quoi l'identité parisienne serait, comment dirais-je, resterait à travers les âges, je crois que votre Paris est perdu, les Parisiens tels que vous les décrivez, c'est une espèce en voie de disparition. Et il m'a dit, d'accord, écoutez, c'est très simple, on réédite le bouquin en livre de poche, vous faites une postface de 40 pages là-dessus. Et j'ai fait une postface qui est reproduite dans cet ouvrage, qui s'appelle « Un Paris perdu ». Ça ne s'appelait pas comme ça, ça s'appelait 20 ans après dans l'original. Et bien entendu, j'explique justement les métamorphoses physiques, mais aussi le paysage urbain, les comportements, le style de vie, enfin, tout ce qui est la transformation. On ne parlait pas de boboïsation encore à l'époque. On pourrait le dire aujourd'hui, bien que ce ne soit pas un concept bobo très scientifique.
Non, mais bobo, c'est chic. Des États-Unis. Mais en fait, la vraie vérité, c'est une... Paris, c'est une ville de copropriétaires, quoi.
Bah oui, plus en plus. Et ceux qui louent, je veux dire, ils louent très cher. Hein.
Voilà, ceux qui louent très cher. Mais après ça, bon, ils ont les moyens de louer, c'est presque...
Vu le prix des appartements, c'est de plus en plus... Alors, simplement, pour l'instant, il y a encore des poches. Oui. Notamment occupés par des familles venues de l'immigration, pas seulement dans les anciennes colonies, mais également, on pourrait dire, des anciennes colonies, puisque l'immigration asiatique, quand même, ça revient du Vietnam, mais il y a effectivement, comme dans toutes les grandes métropoles, des quartiers, disons, je ne dirais pas en voie de communautarisation, il ne faut pas exagérer, mais dans le 13e arrondissement, vous voyez là où j'habite à côté, si je prends l'avenue de Choisy, hein, les banques, les enseignes, les restaurants, sans parler des ateliers plus ou moins clandestins qui sont dans les tours, on a un quartier à dominante asiatique maintenant, vous voyez.
Oui, il y en a un deuxième qui est Belleville.
Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ceux-là, ce sont des gens venus donc d'Asie, mais qui appartiennent à la, j'allais dire, la petite bourgeoisie, je dirais traditionnelle, c'est celle essentiellement des commerçants. Mmh. Hein, c'est pas les immigrés sans papier, etc., d'Afrique subsaharienne, qui sont logés dans les conditions que j'évoquais, notamment dans le nord-est de Paris. Oui. C'est autre chose. Ces gens-là sont venus, ils ont fui le communisme, entre guillemets, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, ils ont de très bonnes relations, à maintenant, avec les pays dits communistes encore, on ne sait pas pourquoi. Moi, je vous recommande un article qui est sorti dans le dossier spécial du monde diplomatique de ce mois-ci. D'ailleurs, ils ont sorti un extrêmement bouquin. Là. Mais il y a un remarquable article sur ce qui est en train de devenir Hanoï. Il y a le grand Hanoï. Il faut savoir que Hanoï est aujourd'hui une capitale du shopping et du tourisme. Et en matière de shopping, elle est devant Shanghai, je dis bien Shanghai. C'est une autre échelle, pourtant. Et Tokyo. Mmh. Et la bureaucratie qui, comme partout ailleurs, les anciens bureaucrates et apparatchiks se sont convertis eux aussi en oligarques. Les oligarques vietnamiens sont en train de faire, avec l'aide naturellement de firmes privées coréennes, de firmes de Hong Kong et même des États-Unis, ils veulent faire de Hanoï une métropole globale, hein, où le centre, comme partout ailleurs, va être réservé aux classes qui peuvent se le permettre. Et puis les ouvriers, les employés vont être éjectés vers la périphérie. Ça, je vous recommande cet article, il est absolument remarquable.
J'entendais dans parler le monde aussi, diplomatique de ce mois-ci. Aussi ce matin d'une grande ville chinoise dont j'ai oublié le nom, qui est en train de. Ils rasent tout et ils reconstruisent.
C'est pas Shenzhen.
Absolument. Absolument.
Oui, c'est énorme. C'est une ville qui fait maintenant 12 millions d'habitants.
Qui, je crois, est aussi grande que le pays, l'Autriche.
Enfin, oui, en termes démographiques. Oui. Oui, absolument.
Voilà, enfin, c'est assez hallucinant.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades. Les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi, je vais aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
Cosimon, la commune de Paris, on en est loin hein, de la commune de Paris,
oh là là,
je
oui.
pense, Jean-Pierre Garnier. Vous publiez une violence éminemment contemporaine, et c'est sur la ville, la petite bourgeoisie intellectuelle et l'effacement des classes populaires, dans la collection Contrefeu aux éditions Agone. Alors, violence, quand on parle de violence et de ville, on pense tout de suite à émeute, banlieue. Mais en fait, la vraie violence, elle est ailleurs.
Elle est ailleurs, elle est dans l'espace urbain, mais elle n'est pas là où le disent les médias, les politiciens ou la police carrément. Mm-hmm. Justement, il y a des gens qui ont dit que le titre est de moi, mais il était le titre d'un article qui a été reproduit en guise de conclusion. C'est l'article le plus récent, je l'ai terminé en octobre l'année dernière, et beaucoup me disent contemporaine, en quoi d'abord, de quelle violence s'agit-il? Pourquoi contemporaine et pourquoi éminemment? Alors, violence, il est question de ce qu'on appelle, ce qu'on appelait à l'extrême-gauche, ou enfin dans la tradition, j'allais dire marxiste, la violence sociale inhérente à une société de classe, une société capitaliste, mm-hmm. pour appeler les choses par leur nom. Simplement, vu ma profession, c'est cette violence sociale, la manière dont elle se manifeste et s'exerce dans le champ urbain. Et je dirais qu'elle se manifeste de trois manières. La première, c'est qu'elle se manifeste de manière très matérielle et physique, on vient d'en parler, mm-hmm. sous la forme, j'allais dire, de l'interdiction du droit à la ville, ou de la, comme dirait le géographe que j'ai cité tout à l'heure, anglais, David Harvey, de la dépossession des classes populaires du droit à la ville, hein, avec expulsion vers les périphéries. Ça, c'est la première
voilà,
chose.
C'est eux qui en ont fait la mythologie de cette ville, c'est eux qui en ont donné l'image, et cette image est réappropriée par une bourgeoisie intellectuelle.
Ou une petite bourgeoisie, voilà, parce qu'elle n'est pas classe dirigeante, voilà, elle est au service de la classe dirigeante.
Qui en fait une sorte de décor de théâtre ouais. dans lequel elle habite et qu'elle privatise.
Oui, alors ça, c'est un aspect. Le deuxième, dans cet ouvrage, je traite de la violence symbolique contenue dans certains types de discours pseudo-scientifiques ou scientifiques, notamment ceux qui sont divulgués au CNRS et ailleurs, ou dans les universités, dans les départements de sociologie urbaine, de géographie urbaine, de politologie, etc. Violence symbolique, c'est-à-dire une description de l'évolution en cours des villes, on appelle ça mutation, ça mm-hmm. fait très bien de dire mutation, c'est un terme emprunté à la biologie, ce voilà. qui donne un tour presque naturaliste.
Voilà, naturaliste et surtout inéluctable. C'est-à-dire voilà. que la décision n'intervient
voilà.
plus.
Voilà, mutation, c'est presque un phénomène voilà. physique, ou, voilà, physique ou métaphysique, je dirais. Voilà. Et il y a tout un langage et un discours destiné à euphémiser, à masquer, une novlangue en quelque sorte, le caractère, j'allais dire, de classe, pour être très clair, des transformations urbaines contemporaines, pas seulement à Paris. Et ça, j'appelle ça violence symbolique à la suite de Pierre Bourdieu. Comme quoi, c'est un discours qui désarme intellectuellement les gens face à une critique éventuelle de ce processus de transformation qui est de plus en plus ségrégatif et exclusif au profit des couches dominantes. Et puis le troisième type de violence auquel je m'intéresse depuis longtemps, c'est la violence urbaine au sens, alors j'allais dire, là je mets les guillemets, au sens où les sauvageons et racailles de cité donnent du fil à retordre, j'allais dire, aux autorités. Et là j'explique qu'on a affaire là à une contre-violence de la part de la progéniture des couches les plus dominées, parquées dans des zones de relégation. C'est une contre-violence qui riposte à la violence effective des conditions de vie de leur famille dans cet habitat marginalisé, sous-équipé, éloigné des lieux de travail, avec une architecture, pas la peine d'insister, c'est connu, et évidemment sans avenir aujourd'hui avec la flexibilisation de l'économie, hein, la déstabilisation des professions, avec le fait que même beaucoup qui sortent, il y en a qui s'en sortent, qui sortent des quartiers, comme on dit, mais la majorité savent que même avec un bac plus 3, 4, 5, 6, il suffit de voir où vont les étudiants qui ont leur diplôme à Saint-Denis, à l'université de Paris 8, beaucoup cherchent du travail. Il est bien évident que les petits frères voient la chose suivante, c'est que même ceux qui travaillent à l'école et en plus forte raison à l'université ne trouvent pas toujours du travail ou alors déqualifiés. Hein, moi, je connais plein, vous aussi sans doute, des bacs plus 5 ou 6 qui se retrouvent vendeurs à la Fnac ou livreurs chez Pizza Hut. On peut comprendre que leurs petits frères pensent que le deal et le trafic rapportent plus et moins fatigant
D'autant qu'ils ont des besoins générés notamment par leur babysitter de toujours qui est la télévision.
Parce que vous dites les vidéoclips, la télévision, les pubs, les murs. Il est évident, je ne m'en fais pas évidemment de ces émeutiers, entre guillemets, des révolutionnaires. Ces gens-là ont intégré l'idéologie consumériste.
Voilà, donc ils ont besoin d'argent pour essayer de ressembler au modèle qu'ils voient inventer comme celui de la réussite.
Je vais vous dire une petite anecdote. La semaine dernière, j'ai été invité, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, sur la chaîne de Christine Ockrent, ça ne fait pas partie de mes amis, c'est le moins qu'on puisse en dire, s'appelle France 24 heures, chaîne de télé. Et il y avait sur la... il y a des émissions en anglais, complètement en anglais, avec des débats en anglais pour un public anglophone. Et il y avait un débat sur les troubles dans les banlieues, une cause désespérée, point d'interrogation. Et alors, face à moi, j'avais le président, le nouveau président de SOS Racisme, sur SOS Racisme, dans certains de mes ouvrages, et même dans celui-là, je dis ce que j'en pense et ce qu'il faut en penser.
Voyons ce qu'ils ont fait de la marche des beurs.
Ils ont transformé une marche de l'égalité pour l'égalité en marche des beurs. Ils ont ethnicisé la question sociale.
Voilà. Et puis en marche-pied aussi.
Alors là, j'évoque. Dans un autre ouvrage, j'évoque la carrière de Harlem Désir, comment s'était pilotée toute cette affaire par Jean-Louis Bianco, secrétaire de l'Élysée, à l'époque de Mitterrand, comment il y avait un ancien gauchiste aussi reconverti, qui est devenu un sécuritaire arriviste et sénateur, M. Julien Drey. J'avais devant moi un nouveau, il avait l'air sorti de Sciences Po.
M. Julien Drey qui va s'occuper de la culture région parisienne, on est très content.
Et lui, il disait, il n'y a pas assez d'argent pour la politique de la ville, sous-entendu, il n'y a pas assez de subventions pour SOS Racisme. Il faut traduire. Et puis il y avait d'autre part, je ne vais pas vous faire le détail, une journaliste de Mediapart, donc la bande à Edwige Plenel, ancien gauchiste lui aussi, qui est devenu le co-directeur du Monde par la suite, associé à Colombani, enfin je ne vais pas faire la liste. Mais il y avait, c'est ça le plus curieux, un jeune lieutenant de police, chargé de la répression du trafic de drogue dans les cités. Eh bien, vous me croirez si vous voudrez. Moi, avec mes positions que je qualifierais, si on peut dire entre guillemets, d'anarcho, non pas autonome, mais anarcho-marxienne, je me suis retrouvé souvent d'accord avec ce que disait le policier. Parce que quand j'ai dit que finalement, les réponses policières que l'on donne à cette fameuse crise des banlieues ou des cités, c'était en fait faute d'une véritable réponse politique, pas une réponse politicienne. C'est-à-dire une réponse où il y aurait finalement un changement drastique de politique, c'est-à-dire qu'il faudrait rompre avec la politique néolibérale. Il faudrait peut-être rompre avec les diktats de l'Europe. Rompre avec, toutes les théorisations sur le libre marché, etc. Et que, somme toute, le rôle de la police, je l'ai dit publiquement, direct, le rôle de la police était la voiture balai chargée de ramasser la merde secrétée par le capitalisme libéral. Mais il était d'accord, le flic. C'était absolument. Il dit oui, nous, on peut rien résoudre. Nous, on vient là pour sécuriser les gens et les biens. Mais l'origine des problèmes, ce que j'ai expliqué, l'origine des problèmes, elle n'est pas sur place. Il y a une politique globale, on peut dire elle est nationale maintenant, elle est mondiale, qui va vers l'appauvrissement des couches populaires, la paupérisation de masse, qui va vers la précarisation, qui va vers la marginalisation de masse, et qui fait que dans toutes les villes du monde, le fossé, l'écart, les inégalités, l'écart entre les couches en termes de revenus, de possibilités d'existence, n'a fait que s'accroître. Je l'ai encore entendu à la radio ce matin, ça n'est pas un scoop. Eh bien que ça se traduisait dans l'espace par, effectivement, le contraste croissant entre, d'un côté, une ville lisse, aseptisée, nettoyée, réservée aux classes dirigeantes, et d'autre part, des zones de relégation sont parquées, les laissées pour compte de la globalisation. Et j'ai cité Naomi Klein dans son dernier ouvrage sur la stratégie du choc, sous-titre « Vers un capitalisme du désastre ». Et j'ai dit ce que dit Naomi Klein quand elle dit que les villes mondiales vont aujourd'hui vers ce qu'elle appelle le modèle Bagdad. Le modèle Bagdad, c'est la division de Bagdad, occupée par l'armée américaine, entre les zones vertes, ultra protégées, sécurisé au profit du corps diplomatique, des hauts fonctionnaires, des humanitaires ayant pignon sur rue, puis bien entendu des gradés de l'armée, et puis de l'autre côté, puis les suppôts du régime mis en place, et de l'autre côté, ce qu'elle appelle les zones rouges, où l'État n'existe plus, qui ne sont investies désormais que par la police et l'armée. Elle aurait dit, dans les villes, dit Naomi Klein, c'est ça qu'on a peu à peu, des zones vertes, entre guillemets, c'est-à-dire, des enclaves huppées, hyper surveillées, hyper protégées plutôt que surveillées. Là, je dirais que Big Brother veille sur ces gens-là. Et puis on a les zones rouges, comme dirait Naomi Klein, c'est-à-dire les zones de relégation où sont parqués les pauvres, ou les gens paupérisés. Et là, ce sont des zones hyper surveillées cette fois-ci, aussi bien par les caméras de vidéosurveillance, les patrouilles de police, les drones maintenant qui surveillent les banlieues. Oui, et là, je dis que Big Brother, là, il ne veille pas sur les gens, il les surveille. Mm-hmm. Hein, on a véritablement un clivage accru, parce que la ségrégation ne date pas d'aujourd'hui. Elle a toujours existé dans toute société de classe, même avant le capitalisme. Mais elle a pris des formes aujourd'hui nouvelles, et c'est celle-là qui m'intéresse d'étudier, c'est celle que j'étudie depuis, je vais dire, le milieu des années 80. Quoi. Mmh.
Une ville comme Buenos Aires aussi est très marquée par ce genre de choses.
Oui, d'autant plus que là, il y a eu un excellent festival qui s'est terminé dimanche d'une semaine d'une association franco-argentine qui s'appelle Pico y Pala, la pelle et la pioche, où ils ont passé une fois par jour dans des lieux différents de Paris une série de courts-métrages documentaires très bien faits, sous-titrés en français. Et il y avait un jour qui était consacré aux transformations urbaines et à la sécurisation de l'espace. Bon, là, j'ai été invité pour un débat. Et on voit, Buenos Aires, puisque vous le citez, comment on est en train peu à peu de fermer. On le fait à Paris déjà depuis le début des années 80. De mettre des grilles autour des parcs pour éviter que les clochards y dorment. Hein, on dit que c'est l'insécurité. Il faut
mais
que les
on
parcs,
le fait
là
aussi à Paris. Hein,
c'est le Square Léon,
oui,
qui est arrivé
fait,
au Square
oui.
Léon récemment.
Vous vous dites qu'il sera bientôt très chic de venir glander.
Ben oui, c'est très bien. Oui, oui. Il y a, la jeune femme dont je vous parlais, Anne Clerval, la géographe, oui. vient d'écrire un article sur les transformations du Square Léon, avec la coexistence qui n'est pas pacifique pour l'instant, mais on est en train de les éliminer, entre les fils de néo-petits bourgeois et puis ceux, les racailles du coin, quoi. Et de voir comment on est en train de sécuriser tout l'espace, notamment autour et dans le Square Léon. Ouvrage qui article qui sortira dans le prochain numéro de la revue académique, universitaire, espace et société.
Bien. Il faut bien que ça serve un peu l'argent public quand même.
Bah oui.
Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon, 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 Bidonville, vivre là-dedans c'est coton, les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger, dans les chambres l'herbe pousse, pour y dormir faut se pousser, les gosses jouent, mais le ballon c'est une boîte de sardines bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi. On peut se croire égaux. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, Bidon, Bidonville. Me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions. Je reverrai toujours, toujours bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, 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 on pourra se parler, camarade, bientôt. Bientôt, on pourra s'embrasser, camarades. Bientôt,
bientôt les oiseaux, les jardins, les cascades. Bientôt, bientôt, le soleil dansera camarade. Bientôt, bientôt, je t'attends camarade.
Voilà, c'était Bidonville, la chanson de Nougaro sur Aligre FM 93.1. Donc, Bidonville, justement, on oublie souvent de rappeler qu'il y en a aux portes de Paris. Des bidonvilles avec de la vraie terre et des vrais rats à l'intérieur. Pas des faux bidonvilles, ce qu'on pourrait dire ghetto, ceci, cela, en parlant des cités, mais des vrais bidonvilles avec des espèces de caravanes qui n'ont plus vocation à bouger et où vivent principalement des Roms. Et ça, ça existe à côté du périphérique, à moins de 3 km des frontières de Paris. Ça, personne n'en parle. Et personne ne les nomme bidonville, c'est pourtant la réalité. Mais je voudrais qu'on revienne avec vous, Jean-Pierre Garnier, sur la culture, les grandes villes, et je pense à Paris, je pense à Nantes aussi, qui est beaucoup concernée par ce genre de grands événements culturels couplés à des lieux qu'on transforme en cathédrales, même des anciens lieux industriels, ou même des pompes funèbres, enfin plein de choses.
Comme ça,
voilà, c'est qu'il y a eu une grande fête d'ouverture. Voilà, enfin, tous ces lieux-là qui ont été des squats et qui sont institutionnalisés, je pense le plus récent étant le 59 rue de Rivoli, qui est maintenant tout blanc et tout repeint, et où il faut presque enlever ses chaussures pour rentrer. Mais voilà, c'est ce genre de lieu qui propose une culture à vendre et qui va à l'encontre, parce que ça récupère bien entendu les subventions, de tout ce qui était éducation populaire. On le voit très très clairement en Seine-Saint-Denis, où quelques événements sont privilégiés, pilotés par des maires socialistes ou écologistes.
Banlieue bleue, par exemple.
Voilà, banlieue bleue, enfin plein d'autres événements, et au détriment de lieux qui faisaient tout simplement des ateliers pour les gamins, des choses qui formaient un public qui faisait venir la culture d'où elle venait, c'est-à-dire de la jeunesse, et qui proposait peut-être autre chose que simplement la télévision ou la consommation à des jeunes gens et à une autre forme de plaisir, tout simplement. Ça, c'est complètement éradiqué au profit de quelques événements à consommer. Donc ça aussi, ça participe de la transformation de la ville. C'est une transformation vraiment idéologique. Ce qui se voit, ce qui brille, la France des Lumières, les villes Lumières, où il y a du pain et enfin, pas beaucoup de pain et pas mal de jeux.
Les nouveaux jeux un peu élitistes.
Voilà, où il y a quelques artistes contemporains subventionnés et déjà reconnus par l'institution qui viennent pendant une nuit exposer. Et puis on dit que c'est une fête populaire, mais en fait les médias en parlent, mais les gens n'y vont pas. Tandis que, d'aller tous les mercredis ou tous les mardis soirs à un atelier, évidemment, personne ne le voit, mais ça crée autre chose, mais peut-être que ça crée un peu trop de gens qui réfléchissent. Serait-ce le problème ?
C'est toujours l'ambiguïté, j'allais dire, de la position, finalement, de ces nouvelles couches dont je parle, la petite bourgeoisie intellectuelle. Dans une première phase, on peut dire, elles sont ou elles ont été contestataires, comme on dit. Mmh. Et puis, dans une deuxième phase, on dit qu'elles sont récupérées. Il y en a une partie qui le sont, mais la récupération, les situationnistes se disent eux-mêmes, n'est récupéré que ce qui est récupérable. Et il est effectivement, quand on place, j'allais dire, la lutte uniquement sur un terrain culturel, pour ne pas dire culturaliste, c'est-à-dire plutôt esthétisant et dépolitisé, tôt ou tard, il est bien évident que c'est un plus, c'est considéré par un plus, par des autorités qui sont toujours en train d'essayer de trouver des innovations dans le domaine culturel pour pouvoir justement apprivoiser et rallier ces nouvelles couches. C'est très évident, la politique à Grenoble, par exemple, là aussi. D'un côté, on lutte contre les squats irrécupérables, ceux qui sont notamment occupés par des anarchistes. Ouais, c'est pareil à Rennes, avec le maire socialiste.
C'est pareil à Montreuil aussi, on en a beaucoup parlé. À Montreuil, on en a
à Montreuil, oui. Et puis de l'autre côté, on a finalement des gens qui ne rêvent, sans doute, qui étaient un peu déclassés, qui ne rêvent que de se réaliser sur le plan artistique. Et somme toute, avec ces gens-là, ils peuvent contribuer au renouvellement des cultures au service de certaines couches de la population. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur la transformation culturelle conjointe avec les transformations urbanistiques et architecturales, effectivement, on a un processus de gentrification, pour utiliser le terme importé. Moi, je dis boboisation pour m'amuser, entre guillemets, mais gentrification. C'est pas seulement au plan, j'allais dire, architectural et urbanistique, mais également au plan culturel, et même, comme le disent certains géographes de la nouvelle génération, il y a une gentrification des partis de gauche, dont non seulement les élites et les dirigeants et les leaders et les penseurs appartiennent pleinement à cette petite bourgeoisie intellectuelle, un Pierre-Auzan Vallon ou un Jacques Julliard, le Nouvel Observateur, bon, c'est ou Télérama, c'est vraiment la quintessence de la petite bourgeoisie intellectuelle, mais l'essentiel de leur électorat, du lectorat de ces organes que j'ai cités, mais de l'électorat, et lui aussi fait partie de cette fraction, j'allais dire intermédiaire, médiane, qu'est la petite bourgeoisie intellectuelle. Il y a donc une gentrification, de fait, aussi des partis et des organisations de gauche, qui fait qu'on ne peut pas dire qu'ils trahissent quand ils se détournent des milieux populaires. En fait, ils répondent à leur base. Et comme leur politique vise à favoriser cette base par des aménagements, vous l'avez rappelé, du genre musée d'avant-garde, reconversion de friches en espace culturel. Vous parliez de Nantes. Nantes, c'est une capitale en voie de boboisation, mais Jean-Marc Ayrault est typique de ça. Il faisant appel, il y a l'île qui est au centre, là, une île qui devient maintenant, et qui est une ancienne friche aussi, et qui devient maintenant un haut lieu, j'allais dire, un espace culturel convoité et approprié par ces nouvelles couches. Mais c'est partout pareil. Et effectivement, alors on peut le regretter. On peut dire, somme toute, il y a une élitisation du droit à la ville réservée à certaines catégories sociales et donc une expulsion, exil. Jadis, on disait la déportation des couches populaires dans les années 60. C'était au Parti Socialiste Unifié, très à gauche à l'époque, Rocard en tête. On parlait de déportation. Bon, on a dit, attention de ne pas banaliser le terme, utiliser exil, expulsion, éviction. Bon, peu importe le nom, le problème, c'est qu'il faut qu'ils dégagent. Et là, maintenant, on a effectivement cette politique qui est où on voit simultanément des festivités programmées, des événements, comme on dit. Oui. On crée de l'événement. Dans un pays où il n'y a plus véritablement d'événements importants au plan politique, au sens traditionnel du terme, ça voulait dire des soulèvements, des insurrections. Oui. Maintenant, il y a des événements culturels. Hein. Il y a même, vous savez, des nouveaux postes dans les municipalités adjoints à l'événementiel. Oui. C'est dingue, il y a un nouveau substantif. L'événementiel, c'est un mot récent. Oui. Adjoint à l'événementiel, de même que les adjoints à la sécurité, maintenant, on euphémise, ils ne s'appellent plus comme ça, c'est adjoint à la tranquillité publique. Oui. C'est la même chose. Hein. D'un côté, on fait la fête, de l'autre côté, c'est la répression. Et une des villes les plus caricaturales, mais il y a l'embarras du choix, c'est Lyon. Vous avez M. Gérard Collomb, maire PS de Lyon, qui est d'un côté ultra-sécuritaire, grand admirateur de l'économie de marché, qui s'était fait photographier aux côtés de Giuliani lors de son première campagne électorale, et qui s'était fait photographier la bourse de Wall Street, ouais, pour dire « les socialistes n'ont pas de préjugés », c'était ça sous le titre. Vous voyez, ces gens-là se sont ralliés au profit, à l'entreprise, etc. Sont ultra-répressifs quand ils font des événements culturels. Il y a eu la Biennale des Arts à Lyon il y a quelques années. Il y avait des roulottes dans la rue où ça faisait... Justement, ça se déroulait dans un ancien entrepôt réaffecté. Oui. Ça, c'était pour Bobo. Et là, il y avait la chambre de commerce qui était derrière et tout ça. Dans la rue, il y avait des roulottes où il y avait des prostituées qui travaillaient dans ces roulottes. Bon, les roulottes ont été déplacées dans lointaine périphérie. Et c'est comme à Lille, vous savez comme moi, que les prostituées qui sont dégagées vers la périphérie, en périphérie, elles risquent leur peau.
Mais absolument, hein, comme à Paris, d'ailleurs.
Elles sont des obsédés, tout ce qu'on voudra. Elles sont démunies et elles se font ça, c'est un véritable scandale. Et ces gens-là, je n'hésite pas à prononcer le nom, les maires de cette espèce sont de véritables salopards. Ils jouent sur toutes les gammes. D'un côté, une ultra-libérale avant-gardiste, la biennale des quartiers, la biennale de la danse, on entraîne les jeunes des cités comme ça.
Non, on n'entraîne pas les jeunes des cités. On les invite une journée. Comme ils ont fait à...
On les entraîne pendant quelques semaines, voilà, avant pour qu'ils dansent.
Voilà, absolument. Et pareil, ils font à Nantes avec les fameuses folles journées.
Les folles journées.
Les populations précaires étaient invitées à venir à certains concerts.
Oui, c'est ça.
Voilà. Non, mais c'est pas ça de la politique. Enfin, c'est pas de l'ouverture, c'est de l'affichage.
Ah non, mais j'ai l'ouverture. C'est de l'affichage, c'est... mais... Voilà, c'est attendez, pour... c'est de l'ouverture, je le répète, réservée à une minorité.
Mais c'est
qui peut avoir accès, mais ils sont quand même nombreux.
Mais non, mais c'est juste pour avoir accès à la ligne de crédit qui correspond à le développement social ou je ne sais quoi.
Oui,
ça n'a rien d'autre. Ce n'est pas du tout quelque chose ni de sincère ni de pérenne.
Non, mais je dirais, d'ailleurs, c'est même pas à la limite quand on parle de sincérité. Bon, c'est des stratégies calculées, hein, de politiciens professionnels. Néanmoins, c'est leur idéologie. Il faut bien le dire. Quand M. Edmond Hervé parle d'innovation culturelle, avec ce genre d'événement, il est sincère. Il se reconnaît dans cette culture. Cette culture, pour ça que j'en parle à propos de Beaubourg et de la création de Beaubourg, le chapitre a été intitulé la petite beau-bourgeoisie, donc.
Oui, voilà. Mais hein? C'est justement sur ce chef-lieu-là que je voulais revenir.
C'est ça. Et il faut voir, moi, j'ai assisté de très près, ouais. Vu mes relations que j'avais avec ce professeur que j'ai cité, ami de Pompidou. Initialement, Beaubourg, ça devait être pas du tout ce que c'est devenu. Initialement, ça devait être un espèce de, comment dirais-je, là aussi, de vitrine pour la modernisation de la production industrielle de la France.
Voilà.
À l'époque, c'était purement économique. On allait montrer les objets design, etc. Mais très rapidement, qui est-ce qui a pris en main Beaubourg? Qui est-ce qui était nommé à la tête de Beaubourg? Des énarques ou autres qui étaient de gauche, bien entendu, avec la carte, même ancien du PSU, ancien maoïste, etc., pour en faire, en quelque sorte, via notamment le Centre de Création Industrielle, le CCI, et moi je dis, ça devrait s'appeler plutôt le Centre de Consommation Idéologique, le temple de l'imaginaire, des désirs et des goûts de la nouvelle petite bourgeoisie. Et on voyait les nouvelles expositions sur la ville panique, la ville fragmentée, sur la critique du consumérisme. Et on voyait les textes et les inspirateurs, Paul Virilio, Jean Baudrillard, je veux dire tous les anciens idéologues de mai 68 qui étaient embauchés pour donner des idées à ce temple, qui était le temple d'ouverture de l'anticonformisme. Il faut voir ce que c'est devenu Beaubourg. Il faut quand même rappeler, je le rappelle dans le bouquin, que l'un des endroits les plus où il est interdit de manifester, à part les abords de l'Élysée et de la place Vendôme, l'endroit un des plus fliqués de Paris, c'est le parvis de Beaubourg. Mmh. On est dans un espace de liberté, soi-disant, c'est la liberté ultra-surveillée.
Mmh. Oui, c'est le cas. Et hélas, un petit peu partout. Il nous reste 3 minutes, je vous laisse le choix de la conclusion.
Je ne sais pas s'il faut conclure, simplement, je conclurai un peu sur une interrogation qui est celle de la fin de l'ouvrage. C'est-à-dire que le problème, c'est que la contre-violence des jeunes des cités en réaction à la violence sociale qui s'exerce sur eux, pour l'instant, elle n'est pas, j'allais dire, ouvertement politique. Mm-hmm. Et que, contrairement à la violence historique traditionnelle, ouais. Que je dis, la violence orientée, mm-hmm. de la lutte des classes, avec les classes dominées qui avaient des idéaux, des programmes, des leaders, des organisations, des théoriciens, qui proposait un modèle alternatif à la société telle qu'elle est là.
Oui, mais le problème, c'est que ces classes dominées, elles avaient un travail, donc elles avaient un lien social. Ben, ils n'ont plus ce lien social.
C'est pour ça que je parle non plus de la violence orientée de la lutte des classes, mais de la violence erratique des déclassés. C'est une haine réactive, on peut dire, et effectivement, qui peut donner lieu à toute une série de dérapages et de dérives, où la cible, ça n'est plus les classes dirigeantes elles-mêmes, ça peut être même des gens... comme dirait un de mes amis, finalement, on incite les plus pauvres à s'attaquer aux moins pauvres pour les dissuader les uns et les autres de s'unir contre les riches.
Voilà. Bah, c'est QFD. Bon, alors, en 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a un mot qui revient souvent dans l'ouvrage, c'est le mot rue. C'est-à-dire que, bon, d'une part, on a remarqué qu'en banlieue, il n'y avait pas de rue. Il n'y avait plus de rue, ni de trottoir.
On ne peut pas dire qu'ils descendent dans la rue. D'abord, ils y vivent.
Voilà.
Hein, qu'il y a des murs, comme disent
certains. Mais c'est des esplanades, ce n'est pas des rues. Et donc, profitons de la rue. Essayons de profiter de la rue.
Oui, mais c'est peut-être plus la rue au sens traditionnel, c'est-à-dire les manifestations traînent savates, rituelles et sans résultat. Organisé par les syndicats et les partis, ça n'est plus ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est effectivement des mouvements, effectivement, de masse, d'ailleurs, basés sur des réseaux, ceux que vous évoquiez tout à l'heure. Ça peut être une radio locale, ça peut être des espaces associatifs qui ne sont pas, j'allais dire, financés, institutionnalisés. Ça peut être avec l'appui de journaux parallèles, comme on dit si bien. Et que, à l'occasion d'une question centrale, ça peut être les sans-papiers, ça peut être le système carcéral, ça peut être les retraites demain. Il se peut qu'il y ait des mouvements, j'allais dire, inopinés, inattendus. C'est bien pour ça que c'est de plus en plus fliqué, notre société, parce que la classe dirigeante ne se sent pas très sûre d'elle-même. Son spectre à elle, ce n'est pas la révolution, c'est l'implosion sociale, la décomposition, avec des mouvements matchs qui peuvent surgir à n'importe quel moment, n'importe où, sans représentant officiel, et très difficile à contrôler, sinon par la répression. Et je pense que s'il doit y avoir un changement radical dans une société, c'est valable pour toutes les sociétés, au moins capitalistes développées, ça va venir, je disais, non pas de mouvements séparés chacun sur leur domaine, mais peut-être d'une convergence entre mouvements auto-organisés sur des revendications précises, mais qui feront le lien en voyant que c'est le même ennemi, quoi. Mmh. Et que, effectivement, ça ne sera peut-être pas les insurrections du 19e siècle, dont on sait que d'ailleurs que la bourgeoisie est surarmée pour les réprimer, mais ça peut être la paralysée. Et ça peut être la constitution, j'allais dire, de double pouvoir, ne serait-ce qu'avec une information, ou plutôt de contre-information, neutraliser les médias officiels, d'ailleurs, très important, pour ne pas bourrer le crâne à la majorité. Hein. Et bon, c'est pas moi, je n'ai pas terminé mon livre avec un programme insurrectionnel. Mais l'idée, c'est celle-là.
Mais en tout cas, merci de nous avoir donné quelques armes, au moins de prise de conscience et de réflexion avec ce livre. Jean-Pierre Garnier, Une violence éminemment contemporaine, essai sur la ville, la petite bourgeoisie intellectuelle et l'effacement des classes populaires. C'est paru chez Agone dans la collection Contrefeu. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.
Moi qui vous remercie.
Merci également à Wissam Alkayer qui réalisait cette émission. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'Aligre FM et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Liberté sur Parole. Au revoir à tous.
Jusqu'à l'autre nuit, la négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi, jusqu'à l'autre nuit.